Ainsi donc que je donne l'antenne à Patrick Simon avec l'inversion des valeurs, illustration, l'indignation devant les bombardements pour se défendre. C'est à vous.
Merci, bonsoir Axel. Alors, tout le monde le sait désormais, un accord vient d'être conclu entre les États-Unis et les sinistres gardiens de la révolution islamique d'Iran. Et je crois qu'on peut d'abord dire que c'est bien la preuve, puisque l'accord a été conclu, qu'on peut faire plier ces monstres sanguinaires sans foi ni loi. Pourquoi les États-Unis y sont parvenus? Eh bien parce qu'ils étaient proches, ces gardiens de la Révolution, de l'asphyxie financière en raison du blocage de leurs exportations de pétrole depuis plusieurs semaines. Donc la leçon à tirer, c'est que faire pression sur les barbares, cela paye. Cela paye comme autrefois avec les communistes, parce que même si la guerre du Vietnam a été perdue en 1975 à cause de l'obstruction des démocrates à Nixon, qui ne voulait plus continuer de financer, malgré cela, le communisme s'est tout de même effondré 15 ans plus tard, en 1989. Donc on peut y arriver. Évidemment, c'est une affaire de longue haleine, cela prend du temps. Mais là, un pas a été franchi. À cette occasion, je voudrais rappeler les phénomènes d'inversion des valeurs que l'on peut observer en ce moment. Le Hezbollah, comme autrefois le Hamas, s'arrange pour cacher ses armes et ses hommes, de préférence sous des hôpitaux ou sous des écoles, de façon à ce que les forces armées israéliennes hésitent à les bombarder pour ne pas détruire l'hôpital, l'école et surtout les personnes qui s'y trouvent. On perçoit le calcul machiavélique de ces criminels. Ils veulent protéger leurs armes par des humains innocents qu'ils utilisent comme un bouclier, alors que les gens civilisés préfèrent protéger les humains par des armes. On connaît cette métaphore, cette comparaison fort instructive. Les Israéliens préviennent les habitants d'évacuer les lieux avant les bombardements. Alors, je pose la question, qui est coupable des dommages collatéraux? À l'évidence, ce sont les terroristes du Hezbollah qui ont délibérément choisi de se cacher sous des civils pour échapper aux attaques, exposant ainsi des innocents. Ces criminels qui lancent des missiles ou des drones sur le territoire israélien, qui ont tué à l'aveugle, je parle du Hezbollah, et qui ont autrefois, on l'a oublié, mais il faut se rappeler qu'autrefois, ils avaient enlevé, c'était en 1985, des gens, Kaufman, Sora et bien d'autres, pour les utiliser comme otages pendant des années. Il est normal et il est légitime de les éliminer physiquement, vu la façon dont ils se sont comportés comme des bourreaux tortionnaires. Et pourtant, nombreux sont ceux qui s'indignent ou qui s'indignaient des bombardements sans comprendre ou sans vouloir comprendre que les vrais coupables sont ces terroristes qui ont intentionnellement choisi de s'établir sous ces hôpitaux, sous ces écoles. C'est une inversion des valeurs, confondre les coupables avec les victimes. Deuxième exemple de ces inversions. Pour éviter les vendettas, que les gens se fassent justice à eux-mêmes, le peuple a délégué le monopole de la violence et de la justice à l'État. En contrepartie, la sécurité est assuré et les délinquants sont punis. Tel est le pacte social. Seulement voilà, si les délinquants ne sont pas punis et incarcérés, eh bien le pacte est rompu et les citoyens redeviennent libres de se faire justice à eux-mêmes. Or parfois, les juges ne remplissent plus leur office Et pour diverses raisons idéologiques, sociologiques, conformistes ou psychologiques, tenant au manque de place en prison ou tout simplement à la paresse, les juges ne condamnent plus les voyous, ou très peu. Et ceci a pour conséquence que les gens perçoivent la justice comme n'exerçant plus sa fonction, comme étant atteinte de dysfonctionnement, voire de partialité. Hein, par exemple, ils préfèrent condamner les hommes politiques de droite plutôt que des délinquants ayant tout caché, ou même des pédocriminels, puisque comme on le voit avec les anciens classements sans suite des plaintes contre le présumé pédophile Barella, à l'époque où rien encore n'avait été révélé de cette affaire, il y a eu des classements sans suite. Donc, nous avons là une bonne illustration du fait que la justice n'assurant plus sa fonction du pacte social, eh bien, on n'a plus confiance en elle, et il y a là encore, là aussi, une inversion des valeurs. Troisième illustration de cette inversion des valeurs, certains détestent ce qui ne leur plaît pas. C'est possible, ça, et j'avoue que cela m'arrive souvent, de détester ce qui ne me plaît pas. Mais il ne me viendrait pas à l'idée d'interdire. Or, cette culture de l'interdiction n'existe que à l'extrême-gauche ou au Parti socialiste. Par exemple, le député Delaporte veut faire interdire les banquets du canon français. Le critère ici est simple. Personne n'est obligé de participer à ces festivités populaires. On peut d'ailleurs élargir le propos. Certains n'aiment pas ce qu'ils appellent la malbouffe. Hein, c'est un peu le contraire du canon français, c'est la malbouffe. Mais personne n'est obligé de venir manger un burger au McDonald's, par exemple. Donc, vouloir édicter de telles interdictions relève d'une culture liberticide qui est incompatible avec notre société de liberté, et cela aussi constitue une inversion des valeurs. Ces exemples d'inversion pourraient être multipliés, il y en a bien d'autres. Souvenez-vous de Quentin Derenque, tué par des fanatiques d'extrême-gauche, la Jeune Garde, et traité de néo-nazi, alors qu'il était profondément chrétien. Je rappelle en effet, parce qu'on a tendance à oublier cela, que les prêtres chrétiens autrichiens ont été persécutés et emprisonnés par les nazis. D'ailleurs, nazis, ça veut dire, c'est une abréviation de nationaux-socialistes. Ce sont les nationaux-socialistes allemands qui ont persécuté et parfois mis en camp de concentration des prêtres chrétiens, et ceci est très bien montré par un film d'Otto Preminger. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.
Merci Patrick, on vous retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, la suite du Libre Journal du lundi soir, dirigé par François Costantini. Bonsoir François.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre collaboration, merci à tous. Chers auditeurs, bonsoir. Nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour ce journal mensuel de l'International. À mes côtés, comme habitude, mon inséparable commensal Pascal Mas, conseiller diplomatique spécialiste des BRICS. Cher Pascal, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Et j'ai le très grand plaisir et même l'honneur d'avoir pour invité pour la première fois Monsieur Najib Fayad. Monsieur Najib Fayad, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Monsieur Najib Fayad, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un analyste politique, mais vous n'êtes pas qu'un analyste derrière un bureau, vous avez été également un acteur et un acteur dans le vif du sujet, puisque pendant la guerre du Liban, vous avez été engagé dans les rangs des forces libanaises, vous avez été un proche conseiller de Béchir Gemayel et vous étiez la cheville ouvrière de ce qu'on a appelé les groupes Gamma, qui étaient en véritable un embryon de gouvernement dans les régions chrétiennes et en fait qui, au-delà même du gouvernement, portait une idéologie forte, celle également de la cohésion, notamment du camp chrétien au plan social, au plan économique, et qui faisait preuve d'ailleurs d'une certaine innovation, on sera peut-être amené à en parler. Alors ce soir, nous avons une activité assez rempli au plan international. Il y a bien sûr ce qui est tombé hier soir, l'accord entre l'Iran et les États-Unis, dans auquel nous allons consacrer une partie de notre émission. Bien sûr, de façon incidente, dans la continuité de cet accord Iran-États-Unis, il y a bien sûr le conflit entre Israël et le Hezbollah, dans lequel le Liban, hein, Monsieur Fayad, vous en direz plusieurs mots d'ailleurs, nous attendons bien sûr votre propos avec attention, notamment sur le devenir du Liban. Et puis nous reviendrons un petit peu en plus en Europe, avec notamment les affrontements qui ont lieu en Irlande du Nord, qui sont fondamentaux, puisque pour la première fois, catholiques et protestants se sont unis contre une agression particulièrement atroce, hein, contre une personne handicapée menée par un migrant. En Europe également, puisque est entré en vigueur la semaine dernière le pacte asile et migration dont on parle très peu, hein, sachant que la France insoumise s'y oppose, mais également le Rassemblement national s'y oppose avec beaucoup de vigueur, et on verra pourquoi. Et puis, actualité également immédiate en Europe et dans le monde, c'est le G7, hein, qui vient de s'ouvrir à Évian avec l'arrivée de Donald Trump. Alors, l'accord Iran-États-Unis a été conclu, du moins il n'est pas signé. Alors c'est quelque chose d'assez spectaculaire, parce qu'il faut oublier que les deux pays, depuis l'affaire notamment de la prise des otages des étudiants américains à l'ambassade de Téhéran en novembre 1979, n'ont plus de relations diplomatiques. Elles sont rompues depuis près de 46 ans, pratiquement depuis le début de la révolution iranienne, et les deux pays vont signer un document. D'ailleurs, est-ce que ça ne suppose pas d'ailleurs une reprise des relations diplomatiques? On peut se poser la question. C'est quelque chose d'assez spectaculaire, puisqu'on parle notamment de réouverture du détroit d'Ormuz, que la question... Alors, réouverture du détroit d'Ormuz, il faut le rappeler, hein, ça suppose en tout cas deux déblocages. Le déblocage général par les Iraniens, mais également le déblocage particulier, notamment puisque les Américains font un blocus, mais a priori qui n'est pas si efficace que ça, notamment des ports iraniens. Et puis également, la question du nucléaire, elle serait réglée, ne serait pas réglée, mais on aurait des modalités en quelque sorte de discussion pendant 60 jours. Et l'Iran se verrait restituer une somme, on parle de 12 milliards de dollars, voire de 18 milliards de dollars. Et chose également qui paraît surprenante, voire même inquiétante, c'est que le président Jim Evans a évoqué notamment le fait de, en quelque sorte, d'indemniser les Iraniens à hauteur de 300 milliards de dollars. Donc, en tout cas, on semble rentrer dans une phase de négociation, mais dans laquelle, si vous me permettez de le dire, tout ressemble à une sorte de Munich proche-orientale. C'est-à-dire que, visiblement, les trois peuples les plus concernés, le peuple iranien, le peuple israélien et le peuple libanais, eh bien, finalement, c'est eux qui restent de payer une note très salée, très, très acide, très dure d'addition, puisque le peuple iranien, il est littéralement abandonné à son sort, hein, puisque là, on ne voit pas comment le régime iranien, qui est revenu totalement dans les bras de la diplomatie américaine, tomberait. Le peuple israélien, lui, il est toujours à la merci du Hezbollah. Rappelons que Trump a prétendu que l'accord comprenait également le Hezbollah, c'est-à-dire une cessation des combats au Liban, mais Netanyahou, lui, n'est pas tenu. On comprend bien que Netanyahou a été marginalisé par cet accord et que, visiblement, son avis n'a pas été pris en compte et que ça pose question notamment de l'avenir des rapports entre Washington et Tel Aviv, et puis le peuple libanais qui est bien sûr sacrifié, puisqu'il n'y a pas véritablement de solution solide, durable sur le Hezbollah. Le Hezbollah est toujours là, il n'est pas désarmé, et il n'y a pas seulement qu'une question d'armement, hein, monsieur Fayad nous en parlera, c'est également sa présence partout, ce véritable parasite qui occupe tous les niveaux de l'État libanais. Hein, il y a une anecdote, moi, qui m'a quand même beaucoup étonné, c'est que le gouvernement s'est focalisé sur la construction de l'aéroport de Klayat au nord du Liban, avec notamment le Premier ministre Nayef Sarraj qui est allé, et que le prétexte qui serait donné à cet aéroport, tenez-vous bien, ce serait que l'aéroport international de Beyrouth échappe tellement, notamment, à l'État libanais, et tellement tenu par le Hezbollah, par les services d'ensemble du Hezbollah, et puis également par Amal, c'est-à-dire que tous les emplois du directeur de la Sûreté Générale sur l'aéroport, du directeur de l'aéroport, jusqu'aux agents de piste et même jusqu'aux vendeuses des duty free sont tenus par le Hezbollah et Amal, donc, est un lieu d'enseignement. Hein, on sait d'ailleurs que des personnes d'ailleurs qui ne plaisaient pas au Hezbollah ont été identifiées à partir de l'aéroport, ont été assassinées. Hein, c'était le cas de Gebran Touani en 2005. Il a été identifié dès son retour par l'aéroport et pris en chasse par les services de renseignement syriens et le Hezbollah, ce qui a été à l'origine, hélas, de son tragique assassinat en décembre 2005. Et on en est quand même là, c'est un État quand même qui est très affaibli, et véritablement un Hezbollah qui est la partie forte, hein, c'est le parasite même qui a pris le dessus sur le corps sain. Alors je vais commencer par vous, Pascal Mas. Que vous inspire notamment cet accord entre l'Iran les États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose de durable, déjà de temporaire à votre avis? Et à votre avis, est-ce qu'un tel accord pourrait aller à terme, c'est-à-dire aller véritablement jusqu'à résoudre toutes les questions, notamment la question du nucléaire iranien? Je rappelle quand même sur le plan personnel, j'ai eu l'occasion de le dire, je ne crois pas une seconde que l'Iran veuille abandonner l'arme nucléaire, parce que c'est la clé de voûte de son système, c'est la clé de voûte notamment du régime des Mollahs, et c'est l'assurance vie même du régime des Mollahs.
Merci François. Je vais d'abord mettre le point sur des choses qui sont essentielles, bien qu'elles paraissent secondaires pour les Occidentaux. C'est que c'est le Pakistan qui a mené les négociations, et c'est le Pakistan qui a annoncé l'existence de cet accord.
Oui, il s'agit d'ailleurs de... C'est une déclaration, en fait.
C'est ça.
Plus qu'un accord, c'est ce qu'on appelle la déclaration d'Islamabad. Ça redore d'ailleurs le blason, il faut dire, au passage du Pakistan, qui a beaucoup de choses depuis 25 ans, depuis 11 septembre 2001, à faire oublier. Et là, on a véritablement donné en quelque sorte des lettres d'or au Pakistan, hein, pour qu'il valorise en quelque sorte sa place dans l'édifice diplomatique qui est apparemment en train de se construire.
Alors c'est déjà ça, et ensuite ce document qui va être signé vendredi, c'est une déclaration d'intention et sans plus. Parce qu'il faut bien voir que c'est le début d'un round de 60 jours de négociations où là, les sujets vont être abordés, sans garantie de résultat. Donc, il y a beaucoup de gesticulations autour de ce document qui a été révélé dans la nuit d'avant-hier à hier. Et c'est pas quelque chose de fondamental. C'est pas un traité, c'est pas quelque chose qui engage ni les uns ni les autres. D'ailleurs, on a bien vu que Israël avait dit que, en ce qui concernait la neutralisation du Hezbollah, ils y croyaient pas et que ça les concernait pas. Et donc, les bombardements sur le sud Liban pourront continuer sans coup férir. Le gouvernement israélien se moque éperdument de ce que peuvent proposer ou prétendre régler les Iraniens. Donc, c'est toujours mieux que de se taper dessus, ça c'est sûr. Mais bon, vous avez souligné en plus l'aspect, c'est que ce document qui a pour vocation de calmer un petit peu les esprits n'a une vocation exclusivement économique. On parle pas du tout du régime iranien. On parle, alors, le détroit d'Hormuz, oui, l'ouvrir sans les péages, parce que ça, c'est un truc nouveau qui est apparu cette année.
Oui, rappelons que l'Iran a exigé 2 millions de dollars en cash pour laisser passer chaque navire. Hein.
Voilà. Alors ça, c'est pour payer son personnel. Alors, c'est certainement pas pour réparer tout ce qui a été détruit. Mais donc, cet accord, c'est déjà un accord. D'ailleurs, Donald Trump, avec son style habituel, a dit « Mettez les moteurs des pétroliers en route parce qu'il faut que le pétrole coule à flot. »
Oui.
Voilà.
Bon, des
voilà.
Deux côtés, oui.
Voilà. Donc, on voit très bien quelles sont les motivations qui sont les résultantes de cet accord. Donc, c'est pas crédible une seule seconde. Si je me trompe, je serai le premier à m'en réjouir. Mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup confiance.
Najib Fayad, que vous inspire cet accord?
Oui. Ouais, moi, j'aimerais ajouter avant de passer à l'accord, qui est la principale information du jour. Et qui n'est pas encore terminé de toute façon. Donc, c'est quand vous avez parlé du Pakistan, à ne pas oublier que le Pakistan est détenteur de la bombe atomique et nucléaire, ce qui est très important, subventionné, aidé, financé. On voit le pouvoir militaire au Pakistan, c'est surtout pour comment gérer cette situation, surtout qui tourne autour du nucléaire et de l'atomique. Et il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, quand on a vu depuis le dernier mois, les frappes iraniennes sur les pays du Golfe, et il fallait un État puissant, musulman, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça, donc en plus...
Sunnite à 75%.
Hein, merci beaucoup, François. Donc voilà, sunnite en plus, qui se positionne non seulement en tant que médiateur fort, mais donc avec sa bombe atomique, bombe nucléaire, donc, et champion des, entre guillemets, des sunnites. Parce que là, c'est un autre sujet, on passera peut-être à cet autre sujet, mais il y a aussi c'est comme l'Iran chiite qui a l'hégémonie sur toutes les parties chiites, qui aujourd'hui, au niveau militaire, je parle militairement, et qui prend l'hégémonie principalement sur les sunnites. Donc, les Émirats du Golfe sont très puissants au niveau économique, mais c'est vrai que leur manque cette puissance, on va dire, militaire qui n'est pas là.
Ce sont des États qui n'ont jamais été créés. D'ailleurs, on crée toujours les États à partir d'une structuration politique et militaire. La France s'est créée par là, l'Espagne par la Reconquista, l'Italie par une guerre d'unité, l'Allemagne par une guerre d'unité. Eux, ces États ont été découpés en fonction des nappes pétrolières et en fonction, en quelque sorte, des intérêts occidentaux américains sur l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït.
Le Kuwait, Jordanie.
Il faut rappeler que ces États, ce sont des États par nature qui ne sont pas des États combattants. Il faut rappeler que l'Arabie Saoudite, jusqu'à une époque relativement récente, il n'y avait pas un Saoudien dans l'armée. C'est-à-dire qu'il y avait une soldatesse palestinienne, souvent, et même des officiers pakistanais, souvent. Hein, voilà.
Même les gendarmes dans les pays du Golfe, à Dubaï et tout, c'était beaucoup plus des Indiens que des locaux. De toute façon, ça, c'est un autre sujet, mais bon, on va dire qu'il y a un certain pouvoir d'hégémonie sur la partie sunnite. Ne pas oublier un conflit caché qui est la Turquie, le Pakistan et un peu derrière.
On va parler notamment d'Erdogan qui est véritablement l'embuscade. Alors,
pour revenir
sur l'accord, nous vous écoutons.
Pour revenir sur l'accord, là, je vais commencer peut-être par dire un dicton oriental que vous allez comprendre, mais qui est beaucoup utilisé sur la zone, et principalement là depuis hier. Je traduis. On s'est mis d'accord pour qu'on ne soit pas d'accord. Okay? Ou d'une autre manière, on s'est entendu pour ne pas s'entendre. Donc pourquoi je dis ça? Parce que on va revenir au principe de l'accord. Ce n'est même pas un accord de paix. Ce n'est même pas un traité de paix. Il faut faire très attention. C'est un deal. Le départ d'un deal, comme il les aime bien Donald Trump, c'est un, si on va à l'information d'hier soir qui est tombée, c'est un MOU, c'est Memorandum of Understanding. C'est quoi MOU? C'est un mémorandum d'entente ou une lettre d'intention.
Voilà, c'est comme dans les affaires. Vous connaissez les affaires, vous savez que c'est la lettre d'intention. Vous savez qu'il y a une tradition en France, quand on vendait des bestiaux, les maquignons, on tapait à la paumée. Visiblement, c'était fait l'affaire. Et après, on rédigeait le contrat. Et là, véritablement, vous savez très bien dit que la lettre d'intention, c'est en matière d'affaires. Ouais. En fait, ça fait de vous, ça vous lie pas dans des négociations exclusives, mais c'est pas pour autant que l'affaire est conclue.
Ça permet, c'est comme un contrat d'affaires, donc ça vous permet d'ouvrir, de commencer à négocier, à discuter pour arriver à quelque chose. Et là, on a mis un timing qui sont les 60 jours, à savoir que déjà, moi, j'ai entendu une autre info donc, ce matin, vers les 10h30, 11h, qui, à mon avis, peut amener ces 60 jours à être multipliés par deux ou en ajouter encore quelques jours. Donc là, on est parti dans ce qu'aiment bien les Iraniens, et excusez-moi, vous pouvez négocier, discuter pendant, on va commencer, minutes, des heures, des journées, des mois, des années. Le temps est pour eux et dans leur culture même et dans leur compréhension de la politique et des affaires, le temps n'a pas de valeur. Donc, ils vont discuter de tout pour chercher à gagner une heure, une minute.
Les Iraniens disent, vous avez les montres, mais nous avons le temps. C'est ce qu'ils disent. Et ne pas oublier, ce sont des diplomates nés quand même. Hein. Ce sont des gens qui ont même récupéré, recyclé des diplomates de l'époque du Shah, etc. Hein, c'est-à-dire que ce sont des diplomates, des grands négociateurs. Exactement. Je vous laisse poursuivre, cher. Je vous en prie, allez-y.
Je prends avec précaution tout ce que je dis, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, personne n'a pu lire vraiment le texte de cette lettre d'intention. Attention, il faut bien peser les mots. C'est un MOU, encore une fois, c'est une lettre d'intention. Personne ne l'a lu. Donald Trump vient depuis 30 minutes devant Emmanuel Macron de dire, parce qu'on lui a posé la question, qu'il sera publié dans les heures ou les jours qui suivent. Mais personne, jusqu'alors où on se parle, n'a vu ou n'a lu ce qui est vraiment ce que contient cette lettre d'intention.
Alors, il semblerait qu'il y avait des problèmes de traduction, parce que la version anglaise n'était pas exactement la même que la version en farsi.
Comme la résolution 242 à ce moment.
Écoutez, encore une fois, on gagne du temps.
C'est ça.
C'est bien, vous savez, jusqu'à quand on veut gagner du temps, et on continue à gagner du temps. Pour moi, si vous voulez, le sujet aujourd'hui, encore une fois, c'est à l'instantané où on se parle, parce que ça peut changer dans 2 heures, dans 1 heure, demain matin, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qu'il y a pour certains? C'est du positif, parce qu'il ne faut pas nier aussi qu'il y a du positif, il y a plus de négatif que de positif, encore une fois, jusqu'à l'instantané. Mais il y a un arrêt des combats. Ok, à voir. On parlera des détails plus tard. Il y a ce qu'on appelle un accord, mais cet accord, j'ai beaucoup aimé. Moi, le matin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, cher François, Michel-Édouard Leclerc, qui était à la télévision, donc, et qui a dit, ben, c'est un accord de fric.
Oui.
Lui se réjouit, de toute façon, il va continuer à vendre son gazole et son super et son essence moins cher. Donc, pour lui, c'est un bon accord, déjà.
J'aime beaucoup sa franchise et la façon dont il a dit, allez, on va dire, c'est un accord de flousse, c'est un accord d'argent, c'est un accord de fric, que, comme il l'a dit si bien, ce qui a un peu surpris le journaliste qui lui posait la question. Mais bon, c'est vrai, parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Tout ce que vous avez cité avant, François, c'est je paye les 300 milliards. Allez, maintenant, on a ouvert le détroit d'Ormuz, donc les 1700 et quelques bateaux qui étaient contenus dans le détroit. Allez, et Trump l'a dit depuis hier soir, allez, le pétrole va inonder tous les marchés, les prix vont baisser, l'économie va reprendre. Voilà, donc j'arrive demain en Europe, mais avant d'arriver en Europe, donc, parce qu'on revient aussi à ce qui s'est passé ce matin, donc à 10h30, je relis l'information. L'information qui dit qu'il y aura. Attendez, parce que. Voilà. Je reprends les mots exacts. Des frais maritimes ajoutés à l'accord avec Washington au dernier moment. Donc, ça n'a pas été dit hier soir. Donc, ça a été dit ce matin autour des 10h30, 11h. Donc, moi, je veux bien. Donc, ce n'est pas des impôts, c'est une taxe. On joue sur les mots. Mais j'aimerais bien qu'on m'explique, moi, c'est quoi les frais maritimes ajoutés à l'accord d'Washington. Donc, ça, ce que, aujourd'hui, Trump vient de déclarer qu'il n'y aura rien à payer, le détroit d'Ormuz est ouvert, les Iraniens campent sur cette position-là, donc, qui a des frais maritimes. On dirait, excusez-moi, je vais être, parce qu'à un certain moment, il faut un peu caricaturiser la situation. Au départ du bateau, avant de sortir du détroit, avant de rentrer dans le détroit, donc, voilà, on le visionne, on lui dit, ben, tu vas passer. Après, quand il passe le détroit d'Ormuz, il y a les Américains qui lui disent ben, « On t'a vu maintenant, tu sors. » Et au milieu, il y a une cagnotte. Et c'est quoi cette cagnotte? Et on parle encore de sous et d'argent. Donc, mais on n'a à aucun moment parlé des vrais sujets, comme vous l'avez dit, François, avant. Quels sont les vrais sujets? On a commencé cette guerre par dire il y a deux points importants. Pour Israël, c'est existentiel. Et pour les Américains, c'était la bombe. L'uranium, les 450 grammes où est-ce qu'ils sont, etc. Donc, les 450 kilos, changement de régime. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, le plus important, c'était le détroit d'Ormuz, parce que c'est là où commence pour les Américains ce qu'on appelle la situation beaucoup plus économique et géopolitique. Et on a vu Trump qui est parti donc, en Chine, etc. Donc, c'était ce phénomène. Maintenant, je connais tous les bateaux, je connais la quantité. À ne pas oublier, pour que les auditeurs comprennent, il y a 20% du pétrole mondial circule par le détroit d'Ormuz. Donc, ce détroit permettait aux Américains de contrôler la sortie du pétrole et où est-ce qu'il va exactement, à qui et comment. Donc, important à savoir et à calculer. Et depuis, on reviendra après à la Russie, mais je vous laisserai la partie, on n'a rien.
Je voudrais ajouter quelque chose à notre discussion en ce qui concerne la géopolitique, parce que c'est quand même un petit peu le débat que nous avons aujourd'hui. La montée en puissance diplomatique du Pakistan a aussi, favorisé grandement par les États-Unis, a aussi un autre objectif à plus long terme, c'est de mettre en difficulté l'Inde et, bien entendu, l'Iran, qui font partie des BRICS, l'un et l'autre.
L'Inde est en train de. On y reviendra au terme de l'émission, on va évoquer le G7 et les BRICS.
Exact. Voilà.
On
en revient à la fin. Donc le Pakistan est. Bon, alors d'abord.
Tout ce qui favorise le Pakistan défavorise l'Inde et vice-versa. Ouais. On sait qu'il y a une.
Je vais vous devancer sur une information qui a été dite aussi au moment de. Quand ils se sont vus, Trump et Macron. Macron qui a déjà proposé d'aider au niveau, etc. Et directement, Trump lui a dit. Je ne pense pas qu'on aura besoin de vous. Voilà. De toute façon, il y avait un choc.
Les puissances diplomatiques de ces derniers mois, c'était plutôt le Qatar, plutôt le Dubaï, etc. Mais comme les Iraniens ont agressé tous leurs voisins, sans exception, y compris Bahreïn et Oman, évidemment, aucun de ces pays ne pouvait être à la fois négociateur, pacificateur, etc., alors qu'ils avaient subi des dégâts de la part de l'Iran. Donc le Pakistan se trouve dans une situation très favorable, que les circonstances et les opérations iraniennes contre les voisins ont favorisé. Bon, il y aura aussi, François, vous avez dit qu'on allait en parler, des Turcs. une fois de plus, Erdogan s'illustre.
On va y venir justement, mais on continue sur l'accord. Et moi, je pense notamment à Trump. On oublie une phrase de Trump qu'il a dit il n'y a pas très longtemps, qui en dit long sur sa vision géopolitique. Trump a dit « Les seules guerres qu'il faut faire et à fortiori gagner, ce sont les guerres économiques et surtout les guerres commerciales. » Je pense que Trump, en effet, c'est un homme d'affaires. Et par rapport aux Chinois, il n'est pas opposé. En fait, avec les Chinois, il partage une même vision du monde, c'est-à-dire qu'il faut un monde sans conflit, il faut un monde qui permette de faire du commerce, quitte ensuite à s'affronter, mais sur les questions commerciales. C'est-à-dire que Trump et Xi Jinping, je pense que la rencontre avec Xi Jinping a été fondamentale, parce que je pense que Trump, à mon avis, a intégré à partir de Xi Jinping le fait que, pour lui, selon ses propres vues, hein, j'approuve pas la position de Trump, mais en vertu de sa propre logique, il était beaucoup mieux pour lui d'être celui qui va ouvrir Hormuz, donc d'avoir la main sur Hormuz, sur en effet un espace ouvert, sur une relance économique et sur une cessation des hostilités, en effet, plutôt que d'être dans un conflit dans lequel il aurait eu du mal à sortir, parce que je pense que de toute façon, ce conflit a été mal engagé depuis l'origine. De toute façon, il y a un problème plus général, c'est que ça fait 47 ans qu'un conflit n'a pas été engagé. C'est que ni les Américains, ni même les Israéliens, faut le rappeler quand même, on va le dire, mais portent une responsabilité pour moi dans l'établissement du Hezbollah, puisque le Hezbollah, en effet, a été là parce que la Syrie a occupé le Liban. Et si la Syrie a occupé le Liban, c'est parce que Israël l'a bien voulu et que Israël a pensé que pour avoir la paix à la Syrie, le Liban était en quelque sorte une compensation. Dans le fait notamment où il n'aurait pas rétrocédé le Golan. Je pense que vous ne pouvez confirmer ça. Et je pense qu'il y a des responsabilités. Je pense qu'il faut quand même savoir que le fondement, c'est que depuis 47 ans, on peut reprocher beaucoup de choses à Trump, mais il a essayé à un moment de prendre le programme, il y a 3 mois.
On y arrive, si vous voulez. Je terminerai, moi. Si on veut résumer en 2 mots ce qui s'est passé aussi, encore une fois, depuis hier soir jusqu'à l'instantané où on se parle, parce qu'encore une fois, tout peut changer, c'est que l'Iran a tourné sa défaite militaire en une victoire politique et les USA ont tourné leur victoire, les Américains ou les États-Unis ont tourné leur victoire militaire en une défaite
politique.
Ouais. Donc, si on veut résumer en 2 mots assez rapidement jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ça. Maintenant, c'est vrai aussi ce que vous dites, François, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un point très important à comprendre aussi dans la façon de fonctionner des Américains ou la stratégie américaine. Quand ils ne sont pas sûrs, à un certain moment, ils créent ce qu'on appelle, ils tapent, ils créent moi j'appelle ça, pour faire rigoler un peu tout le monde, le clafoutis, et ils attendent voir qui va être le plus fort et qui va se relever pour aller le soutenir. Ceci dit, ce n'est pas le cas, malheureusement, encore une fois, en Iran, on ne l'a pas vu, parce que, aussi, bon, je pense que beaucoup plus les Israéliens se sont attendus un peu plus à un soulèvement qu'ils ont fait. Je ne dis pas, c'est criminel. Encore une fois, il faut bien peser les mots. Ça veut dire que les gardiens de la révolution ont tué tous les jeunes aujourd'hui. Ils continuent à le faire chaque heure, chaque minute, ce qui est incroyable, malheureux, désastreux. Mais je pense qu'ils s'attendaient beaucoup plus, surtout avec le fils du chat qui avait dit...
Mais c'est une question qui se pose. Voilà. Moi, je la pose, hein. Je sais que ça peut-être choquer, mais est-ce que cette jeunesse iranienne ne souffre pas d'une occidentalisation de sa mentalité? C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui vont pacifiquement manifester, qui font tirer à bout portant. Permettez-moi de le dire, quand il y a eu des groupes de résistants, les résistants n'allaient pas dans la rue, y compris entre 1940 et 1944, ils n'allaient pas dans la rue, ils allaient tuer notamment les collaborateurs, ils allaient tuer des officiers allemands, ils allaient tuer des nazis, ils n'opéraient pas comme ça, sinon ils auraient été tués. Et je pense qu'il y a un problème, en effet, de mentalité, malheureusement. Cette jeunesse iranienne, en effet, a été occidentalisée. Rappelons quand même également qu'il y a 1 million de toxicomanes durs à Téhéran, d'héroïnomanes. Le régime a volontairement laissé la jeunesse sombrer en quelque sorte dans la drogue, dans le désespoir. Et il y a un problème également, je pense, que malheureusement cette population iranienne a été désarmée également au plan mental et elle va pratiquement, littéralement, s'offrir en sacrifice au Pasdaran.
Excellent, j'y arrive. C'est pour vous dire que aujourd'hui, quand on voit bien, et on revient à l'accord parce qu'il faut revenir un peu à l'accord à la fin, c'est ce qui s'est passé. On a créé ce clafoutis un peu à l'intérieur. Et aujourd'hui, vous n'avez pas un seul interlocuteur. On voit très bien aujourd'hui une entente entre le président et le ministre des Affaires étrangères iranien. On voit très bien le chef du Parlement qui a une autre position. Ali, ouais. Donc il y a plusieurs, on va dire plusieurs.
Galibaf et Ashrafi.
Voilà. Pour que les gens comprennent, je ne cite pas les noms, mais pour que les gens comprennent. Après, vous avez le guide suprême, le chef. Donc, à partir du moment, pour revenir à la base, à partir du moment, et ça c'est très oriental, à partir du moment où le chef n'y est plus, que ce soit chez le Hezbollah, Nasrallah, ou Khamenei chez les Iraniens, dès que la tête tombe, il y a toujours des clans qui se forment.
Naïm Kassem, quoi qu'on dise de Nasrallah, il avait quand même une mainmise sur le mouvement, même il était reconnu comme leader charismatique. Voilà. Naïm Kassem est quelqu'un de très pâle, on dit qu'il a l'oreillette de Téhéran dans l'oreille, c'est tout ce qu'il a.
Exactement. Et là, qui on voit aujourd'hui, c'est l'accord qui a été fait. Par qui? On dit que c'est plus le chef du Parlement et le président, le ministre des Affaires étrangères et le président de la République. Mais est-ce qu'il a été approuvé par le nouveau guide suprême? Et on voit très bien aujourd'hui les gardiens de la révolution qui disent non, on ne veut pas, ils envoient des messages assez disconcordants avec tout ce qui se passe. Et tant que cet accord n'a pas été signé, excusez-moi, mais par le fils Khamenei ou celui qui a remplacé le guide suprême, ben, qui signe? Qui fait? Et quelle est la valeur de cette lettre d'intention? Ou même demain, durant les 60 jours, après les 60 jours, quelle est la vraie valeur de cet accord qui va être fait?
D'autant plus qu'il y a des discussions à propos de l'état réel du guide suprême. Parce que son cabinet envoie des documents, etc., mais on ne le voit pas. Donc, c'est à se demander qui. Est-ce que le guide suprême existe toujours? Ou est-ce que ce n'est pas un petit une junte qui est autour ou qui exerce les fonctions de guide suprême sans en avoir à répondre auprès de qui que ce soit? Donc, c'est vrai ce que vous dites, M. Fayad. Ce document est signé par des gens dont on ne sait pas quel est leur véritable poids et leur véritable pouvoir dans l'administration iranienne.
Pour moi, personnellement, l'analyse, encore une fois, tant que le guide suprême n'a pas mis lui-même personnellement sa signature, il n'a pas eu, excusez-moi, tout accord peut être à un certain moment remis en question.
Vous voyez, une chose que fait Trump depuis son premier mandat, qui a été repris d'ailleurs par Poutine, François, c'est qu'il signe les documents en public, avec ses ministres, etc. Un peu comme autrefois au Moyen-Âge, où les rois faisaient valider leur décrets publiquement, de façon à ce qu'on voit bien qu'il ne s'agissait pas d'un faux ou d'une mauvaise interprétation. Chez les Iraniens, c'est exactement le contraire. On ne sait pas du tout qui fait quoi et qui a l'autorité sur quoi.
D'ailleurs, la question se pose en effet... de la signature, puisqu'on parle de signature à distance. Maintenant, on signe des contrats à distance. On en signe beaucoup, d'ailleurs, vous savez, en matière d'affaires. Les notaires en France, maintenant, signent les contrats à distance. Il n'y a plus besoin de se déplacer d'un bout de France à l'autre. Et là, il y a des signatures électroniques. Alors, la question hypothétique, c'est Jude Vance, Trump ne la signera pas parce qu'en face, il faudrait qu'il ait un chef d'État. Et question se pose. Voilà.
Déjà, on commence à dire qui est de quel niveau. Ben, Trump ne veut pas signer parce que lui, il n'a pas en face de lui quelqu'un du même niveau de président de la République.
Et quant à Jude Vance, est-ce que Galibaf, en tout cas, signer avec un représentant iranien, que ce soit Galibaf, notamment le président du Parlement, Pechedjian est plutôt lui, mais mis de côté aujourd'hui, ça veut dire quand même qu'il y a une reconnaissance diplomatique à haut niveau, quand même. Pas au plus haut niveau, mais à très haut niveau.
Je reviens donc à ce clafoutis un peu. On va voir qui va sortir la tête en premier, qui va se présenter en étant le plus fort pour pouvoir venir signer un tel papier. Ouais. Mais si on voit à la logique, ce n'est que le guide suprême qui peut imposer l'autorité de faire ceci. Et aujourd'hui,
nous sommes lundi, ceci devrait se réaliser vendredi. Entre-temps, il y aura certainement eu d'autres discussions. Et des interprétations, et des codicilles, et des aménagements. Je pense que le document qui a été annoncé hier soir n'est pas celui qui sera signé vendredi.
C'est pour ça qu'il faut prendre ses précautions, attendre un peu. Mais bon, globalement, donc, c'est un deal aujourd'hui financier, pour appeler ça comme ça, qui passe en priorité à voir le politique dans les 60 jours, et qu'est-ce qui va se décider concernant, l'uranium, deux...
Le détroit
d'Hormuz, exactement. Excusez-moi, la sécurité aussi d'Israël, qui continue quoi comment. Donc là, ça c'est...
Alors, un dernier point pour finir avec cet accord, la question du nucléaire. Une question que je pose à tous les deux, Pascal Mas. L'Iran, oui ou non, d'une façon ou d'une autre, va-t-il abandonner son projet d'enrichissement nucléaire et d'accès à l'arme atomique. Rappelez également qu'il y a le projet d'enrichissement, il y a le projet balistique, sur lequel d'ailleurs les États-Unis sont assez peu demandeurs. On l'a bien vu que sur le projet balistique, alors qu'il était assez exigeant avant, là, on voit que les États-Unis accepteraient même un certain niveau balistique. Ça veut dire que l'Iran, même sans parler du nucléaire, se doterait d'une certaine arme. Pascal Mas, l'Iran peut-il abandonner l'arme nucléaire ?
Ça serait la fin du régime réellement. Parce que c'est le régime des Mollahs depuis 1979, c'est justement ça, c'est d'avoir la puissance nucléaire. Il faut revenir au fait que c'était le Shah qui voulait que l'Iran soit une nation nucléaire, non pas pour faire des bombes, mais il avait commandé 9 centrales nucléaires à la France, à Framatome. Donc c'est pas quelque chose qu'ils ont inventé, les ayatollahs. Ils voulaient avoir une puissance. L'Iran était déjà une grande puissance, c'était la 9e puissance mondiale en 79. C'était dans la logique d'un développement et d'une modernisation qui était déjà engagée par le Shah d'Iran. D'autant plus que les Iraniens ont, on l'a dit tout à l'heure, comme voisin, le Pakistan, qui est nucléaire aussi, et puis à travers la mer Caspienne, la Russie. Donc il y a des bonnes raisons pour les Iraniens de prétendre à posséder cette forme de puissance par rapport aux autres. Ce qui terrorise d'ailleurs tous les États arabes de la région.
Najib Fayad, sur le nucléaire.
Je vais répondre très rapidement. Vous l'avez bien expliqué avant, la réponse est non. Et en plus, cette guerre leur a permis de savoir et de comprendre beaucoup plus qu'avec cette arme nucléaire, ils peuvent plus négocier, encore une fois, et plus gagner de temps. Donc, cette arme nucléaire, ou ces 450 kilos d'uranium, ce que vous voulez, on peut les appeler comme on veut, va leur permettre d'aller négocier dans le temps. Et le plus ils vont pousser, et ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'on va leur donner de l'argent. Et surtout les 12 milliards, parce qu'ils réclamaient 24
on
milliards.
On part 18 maintenant.
Parce qu'on part 18, on était à 12 avant-hier, on est maintenant à 18, etc. Plus on va dégeler l'argent qui est un peu bloqué partout pour le redonner. Donc ça va leur permettre de refinancer, parce qu'ils ont un problème économique, et surtout payer leurs hommes, les salaires qu'ils doivent payer à tous les gardiens, tous les services publics. Ils doivent tout réinvestir là-dedans pour remotiver les gens et leur donner les moyens donc de sortir pour dépenser, comme on dit. Et puis, ça leur permettra aussi de dépenser, ce que vous dites, sur les programmes balistiques, le programme nucléaire, le programme, etc. Donc, et ils ont très bien compris, encore une fois, que c'est une arme, c'est pas assez importante, mais vitale pour eux, que ce soit maintenant ou pour après. Donc, je ne pense pas qu'ils vont, excusez-moi, parce que j'entends depuis 2 jours, allez, on dissout, on l'envoie en Russie, au Kazakhstan.
Déjà c'est, je ne suis pas un spécialiste de physique nucléaire, mais c'est extrêmement difficile à dissoudre. Déjà, on ne dissout pas, c'est enrichi à 60. On ne peut même pas le recycler d'ailleurs dans une centrale nucléaire, il faut le savoir. Quelque chose que je ne suis pas spécialiste, mais je crois que quand c'est enrichi à un niveau, vous ne pouvez même pas le...
Je ne le suis pas du tout aussi.
Je crois qu'on ne peut pas le recycler, sauf par du contraire, dans un nucléaire civil. Donc, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut le détruire d'une façon ou d'une autre.
Je suis spécialiste en négociation. Ce que je peux vous dire, ça permet de négocier, de prendre le temps de négocier et de gagner encore plus. Des heures, des journées,
c'est un peu comme
des mois.
L'affaire, c'est un peu celui qui a le brevet et celui qui apporte. C'est quand même celui de brevet. Alors, celui qui a le brevet a également tout, mais celui qui apporte l'argent également, c'est celui qui fait décider. C'est un peu la même chose. Alors, voilà, cet accord, il ne plaît pas à tout le monde. Il ne plaît pas, bien sûr, à qui? Aux Israéliens et surtout à Benjamin Netanyahou. Netanyahou, on le sait, qui, lui, va suivre son propre agenda. Trump, alors, a dit tout et le contraire, a dit que l'accord lié, notamment le Liban, le Hezbollah, mais que finalement Netanyahou, Israël,
et le Hamas,
il avait le droit de se défendre. Bon, le Hamas également est là, mais on sait que l'Iran aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un lâchage de l'Iran. L'Iran a lâché, je pense, la carte du Hamas parce que c'est pas nécessaire, que c'est compromettant pour eux et que c'est une carte qui les intéresse plus. Ils l'ont activé le 7 octobre 2023. Maintenant, là, c'est une carte, comme au poker, qui a été brûlée. Ils ont abattu la carte, elle est brûlée, elle ne sert plus à rien, du moins pour le moment.
On voit le Hezbollah aujourd'hui qui se bat pour l'Iran, il se bat pas pour le Hamas.
Bien sûr, le Hezbollah se bat pour l'Iran. Alors Israël, par contre, on voit que Netanyahou, lui, va suivre son propre agenda. Il y a des tensions avec les États-Unis. Les Israéliens sont quand même aujourd'hui dans une situation de dépendance stratégique assez forte vis-à-vis des Américains. On sait qu'ils travaillent depuis 20, 25 ans, depuis 30 ans, à une autonomie stratégique. Ils travaillent beaucoup dessus, mais ils en sont quand même assez loin. Rappelons quand même au passage que les Israéliens ont fabriqué leur bombe atomique contre la volonté américaine. Il faut savoir que la bombe atomique a été fabriquée grâce à qui ? Grâce aux ingénieurs français du commissariat à la génie atomique, envoyés notamment par Guy Mollet. Et on sait que le général de Gaulle, notamment, et Maurice Couve de Murville voulaient faire fermer le complexe de Dimona dans le Negev, qui est un centre de recherche, mais on sait très bien qu'il y a également la recherche nucléaire militaire qui en est issue, et par l'Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, qui avait d'excellentes relations avec Israël pour plusieurs raisons, une importante communauté juive qui n'a jamais été menacée, au contraire, qui avait une importance sur le plan politique et économique, qui a fourni le combustible. D'ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud aujourd'hui se venge contre Israël, en portant d'ailleurs les plaintes devant la Cour de justice internationale, accueillie d'ailleurs par le président d'alors, M. Naif Salam, Premier ministre libanais, dont on pourrait parler, qui est un personnage assez curieux et ambivalent. Mais qu'aujourd'hui, Israël, il faut savoir que sur le plan stratégique, les Américains n'ont pas été le parapluie stratégique, puisqu'Israël a fait sa bombe, il faut savoir, contre la vie américaine et contre le général de Gaulle. Alors, Pascal Mas, tout d'abord, je vais me tourner vers vous. Est-ce que Israël va suivre l'accord ? Est-ce qu'Israël va continuer, notamment, d'un côté, sa politique vis-à-vis de tentant à neutraliser ou à réduire en quelque sorte le Hezbollah ? Et est-ce qu'Israël a la volonté et les moyens d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'éliminer le Hezbollah ? Et ensuite, on parlera du Liban.
Alors bon, je ne fais pas partie du gouvernement israélien, je n'ai pas d'informations de première main venant du cabinet de M. Netanyahou. Donc, Netanyahou n'en fait qu'à sa tête. En plus, il a présenté l'opération comme...
Est-ce qu'il n'en fait pas à la tête quand même des intérêts de la population israélienne ?
D'une certaine population, oui. Et surtout, il est l'otage dans son gouvernement de deux ministres qui sont des vrais excités et qui...
Les élections... Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais je vous laisse poursuivre.
Et donc, de toute façon, en présentant cette opération comme quelque chose de vital, ce qui est d'ailleurs très, très plausible et respectable, Monsieur Fayad l'a dit tout à l'heure, pour les Israéliens, la question de la neutralisation de l'Iran, c'est vital, c'est essentiel, c'est... Puisque l'Iran, enfin les déclarations depuis 79, c'est la destruction d'Israël. Donc c'est pour les Israéliens, il n'y a pas de discussion. Donc là, c'est Netanyahou qui est au pouvoir. En Israël, quand le pays est en guerre, tout le monde est derrière le gouvernement. Et après, il se bagarre. Mais pour l'instant, Netanyahou, bien que très 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 critiqué en interne, n'est pas critiqué sur la gestion du conflit.
Rappelons que les projections pour les élections d'automne le donnent quand même nettement gagnant, pas très largement, mais nettement gagnant avec ses alliés.
Voilà, parce qu'il a su intelligemment, c'est une bête politique, il ne faut pas l'oublier, ramener à sa cause.
Il y a depuis 30 ans exactement, c'est-à-dire que, bon, pas intermittence, etc., mais il y a 30 ans, pour la première fois, il accédait à la tête du gouvernement. Ce qui est rarissime en Israël.
Oui, de revenir comme ça. Bon. Mais en tout cas, il a su mettre derrière lui. En Israël, c'est beaucoup plus facile à faire que dans n'importe quel pays au monde, toute la population pour la défense, pour la survie du pays. C'est-à-dire que c'est chez eux, c'est dans l'esprit, l'esprit général des Israéliens, il y a quand l'existence du pays est menacée, il n'y a plus de discussion. C'est tout le monde derrière le chef et on élimine les perturbateurs. Donc, je crois que même si Donald Trump l'insulte et lui téléphone en lui disant « tu vas faire ci, tu vas faire ça », l'autre, il fera ce qu'il veut. Bon, après, il dira « oui, mais vous n'avez pas compris, mais pour nous, c'est important, c'est pas comme vous. Vous, c'est qu'une affaire d'argent, nous, c'est une question de survie. » Enfin, voilà. Le discours, il est prêt.
Najib Fayad, alors la marge de manœuvre et la volonté et le but de Netanyahou.
Écoutez, soyons plus non seulement factuels, mais analytiques. Pas de doute qu'aujourd'hui, il y a un conflit
Une mésentente.
Une mésentente, voilà, je préfère ce mot-là, entre Américains et Israéliens, principalement Trump et Netanyahou. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière, mais on verra dans les jours qui suivent, encore une fois, qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant, je réponds à une question que vous avez dit qui était très importante, que vous avez posée. Est-ce que les Israéliens peuvent continuer à faire cette guerre et arriver à sa fin seuls ? La réponse est non. Il faut être factuel. C'est pour ça que j'ai dit, là, il faut être factuel. Non. Autant ils ont réussi au niveau des renseignements, de l'information sur l'Iran et sur le Liban, sur toute la partie Hezbollah, qui était extraordinaire, ce qui a été fait, c'est...
Oui, je rappelle l'élimination d'Hassan Nasrallah, les Vipers, où la plupart des cadres ont été tués. Alors déjà, tous les commandants ont été tués, et puis même le petit cadre qui est très important, qui dirige sa cellule, lui, avec l'affaire des Vipers, il a été mis en sujet.
Même l'histoire d'hier, donc en bombardant l'immeuble où il y avait un grand responsable de Hezbollah, mais bon, aussi en éliminant les 9 principales personnes en Iran, et dont 6 en même pas, excusez-moi, à 36 heures, on ne peut pas parler de ça. Mais après, est-ce qu'ils peuvent continuer à faire la guerre pour répondre à votre question seuls et la mener jusqu'au bout? Non, malheureusement, non. Ils ont besoin des Américains.
Y compris sur le seul théâtre libanais?
Ah, ça c'est une autre question.
Maintenant, si on évoque le théâtre libanais, alors l'Iran, c'est certain, c'est sûr qu'ils ne vont pas aller bombarder l'Iran. De toute façon, Trump l'empêchera et leur dira qu'il ne les couvrira pas peut-être, ripostera pas, notamment au cas des cas. Mais je parle notamment maintenant, on va arriver au Liban. Est-ce que justement... Sur le théâtre libanais, est-ce que, à votre avis, quelle va être la position d'Israël? Jusqu'où Israël veut et peut aller?
Okay, c'est un sujet délicat et large, mais j'aimerais bien l'expliquer aussi aux gens. Maintenant, concernant,
vous avez tout votre temps.
Est-ce qu'il pouvait faire le travail et continuer à faire le boulot au Liban tout en désarmant au maximum, encore une fois, le Hezbollah? La réponse est oui, il pouvait bien continuer. Et c'est là où on a donné la réponse, les Iraniens ont vite donné la réponse, ils ont vite inclus le Hezbollah dans la partie de l'accord.
Pour lui sauver la mise, oui.
C'est sûr, parce qu'ils savaient très bien que le Hezbollah seul ne pouvait pas survivre. N'oublions pas qu'aujourd'hui, encore une fois, à l'heure où on se parle, et ça date maintenant depuis 4-5 mois, il y a des négociations, que ça plaise ou non, donc au Hezbollah. L'armée libanaise est en train, on reviendra sur ce sujet-là, de se placer pour... De plus en plus ont essayé de désarmer. Ils n'ont plus la même légitimité au Liban, que ce soit politique ou administratif ou militaire. Et là, je vais vous donner peut-être une information aussi à la fin. Donc, c'est vrai qu'ils se sont affaiblis d'une façon ou d'une autre, même au Liban. Et c'est ce qu'on a dit concernant l'Iran. C'est exactement concernant donc, le Hezbollah au Liban. À partir du moment où la tête est tombée, donc, il y a des factions, des chefs autour, qui chacun essaye de jouer son jeu à l'intérieur du parti des Hezbollah. Et celui qui attend le plus je ne sais pas si on peut appeler ça un sniper, mais bon, celui qui attend le plus pour essayer de manger la donne, donc la foutie à la fin, c'est le chef du parlement libanais, Nabi Berri, qui attend de voir.
Qui est un chiite, mais qui est là. Parce que le Hezbollah le veut bien. Rappelons qu'il est président du parlement, parce que le Hezbollah ne veut jamais être officiellement à la tête des institutions libanaises, et que même le Hezbollah est allé, pour dire leur cynisme, à faire en sorte qu'ils aient un groupe moins important.
Exact, il a son parti, qui s'appelle le parti d'Amal.
Sans la volonté du Hezbollah, il n'y aurait pas un seul député d'Amal au Parlement libanais. Alors, Nabi Berri, qui a quand même 88 ans.
Hein, exactement.
Il faut le noter.
Il a commencé un peu à faire pousser son fils. Mais bon, qui essaye aujourd'hui d'essayer de ramasser le maximum possible pour reprendre, lui, un peu la relève et pour montrer que, certainement, le Hezbollah n'est plus... on veut dire, il n'a plus l'importance qu'il avait avant, mais on verra aussi dans les... Parce qu'une partie de l'argent qui va être versé demain aux Iraniens peut retourner aussi pour armer
Rappelez quand même que Nabi Berri colle quand même au Hezbollah, puisque l'affaire de l'expulsion de l'ambassadeur iranien, hein, c'est comme alors que l'ambassadeur iranien avait été déclaré persona non grata par le gouvernement libanais, c'est quand même lui qui est monté au créneau pour dire non, l'ambassadeur ne partira pas, c'est Nabi Berri qui est monté au créneau.
Quelque chose de très important aujourd'hui au Liban, pour qu'on comprenne bien la situation au Liban, et c'est désastreux, aujourd'hui depuis les accords de Taif, ce qu'on appelle les accords qui ont été conclus donc, en Arabie Saoudite, il n'y a aucun accord qui peut se faire au Liban, je ne dirais pas un accord, qu'une décision exécuter une décision, et la décision ne peut se prendre que si les trois, le président de la République, le Premier ministre et le chef du Parlement signent. Ce qu'on voit aujourd'hui depuis maintenant 3-4 mois, c'est que le président a accepté la négociation directe ou indirecte avec les Israéliens aux États-Unis. Le Premier ministre l'a accepté, mais le chef du Parlement, Nabi Berri,
Le chef du Parlement, je crois que c'est un cas unique dans les régimes parlementaires. C'est qu'il est élu pour toute la durée de la mandature, alors qu'en général, on renouvelle au milieu. Là, il est élu pour 4 ans sans qu'on bouge. Et en effet, il a pleine main sur le législatif. C'est-à-dire qu'il peut réunir ou pas le Parlement comme ça lui plaît. Il peut décider qu'il y a un quorum ou pas. Il peut mettre une question ou pas à l'ordre du jour, en fait, il tient au plan législatif totalement le pays et il tient le gouvernement et le président, en l'espèce.
Pour bien expliquer, c'est pour ça que j'ai expliqué ça, c'est toute la problématique aujourd'hui au Liban, c'est qu'aucune décision ne peut être prise sans l'accord des trois. Et pour arriver à un accord des trois, regardez ce qui s'est passé durant les 20 dernières années. Donc, au Liban,
l'accord a été fait. Bah, ouais.
Les ministres ont passé plus leur temps à gérer les affaires que de légiférer ou de changer ou d'amener.
Taïf, c'est pas vous que je vais l'apprendre, mais Taïf a été fait, est un accord de circonstance. Il est fait en 89 pour qu'il y ait un arbitre. Et l'arbitre, c'était la Syrie à l'époque. Voilà, c'était la Syrie qui décidait. On faisait semblant notamment d'amuser la galerie entre le président, le premier ministre, surtout quand c'était Rafik Hariri, Nabu Berri. Puis El Asraoui, étant trop faible, les Syriens l'avaient remplacé par Émile Laoud, qui leur était vraiment, qui était pas tant un homme fort, mais quelqu'un qui leur était beaucoup soumis, qui avait l'armée libanaise avec lui. Et là, véritablement, on laissait pendant un mois, deux mois, trois mois discuter, et c'était les Syriens, c'était Hafez al-Assad qui tranchait à Damas. En plus, il réunissait les trois présidents, et c'est lui qui tranchait. Et là, le système, il n'y a plus d'arbitre. Voilà.
Et c'est le problème aujourd'hui dans notre chair, ce qu'on appelle au Liban et qu'on appelle partout dans le monde, mais la muette, ce qui est l'armée. Bah, qui va lui donner les ordres? De qui elle va prendre ses ordres? Parce que s'ils ne sont pas d'accord les trois pour revenir, parce que bon, vous avez raison, on se rit, mais le président a envie de faire, celui-là a envie de faire, mais si le troisième ou un des trois, ou les deux contre un, ou deux ou un contre trois, bah, il n'est pas d'accord, bah, ça, malheureusement, ça ne peut pas se faire. Et tant qu'on n'a pas changé au Liban ce système, l'accord de Taïf pour passer, pour que tout le monde, les auditeurs comprennent, à une troisième république, qu'on appelle en France une troisième république. Il y a eu le pacte de 43,
la deuxième,
il faut passer un accord qui permet au pays de gouverner, au pays d'aller de l'avant et bien disséquer et de bien formaliser.
Véritablement, il y a une majorité parlementaire et que la majorité parlementaire, elle dégage un gouvernement et un président de la République. Voilà, c'est la logique.
On est d'accord, c'était le plan de toute façon du président Béchir Gemayel. Ben, comment on fait pour organiser, pour gérer le pays et quels sont... pour être un pays démocratique, non seulement basé sur les religions, mais un pays démocratique, en fin de compte. Ben, il faut créer ce phénomène. Donc, pour revenir, Israël, on parlait d'Israël, et c'est là où elle est le point emblématique aujourd'hui de cette, on ne va pas dire accord, parce que ce n'est pas encore un accord, hein, c'est une entente, l'aide d'entente. Je pense que Benjamin Netanyahu, aujourd'hui, est à l'affût de la première glissade.
Bêtise du Hezbollah. Ouais.
Si demain, pas seulement bêtise du Hezbollah, parce que si demain, dans les négociations durant les 60 jours, il y a quelque chose qui gêne les Iraniens, on pousse un peu les Hezbollah. Le Hezbollah, on voit quelque chose en Israël, on est parti. Et l'information que je vais vous donner, je mets mes gants, comme on dit, je mets des gants. Mais en 1982-83, la majorité de Hezbollah était devenue libanaise. Donc, ils ont commencé
à partir de Amal islamique, d'ailleurs, à partir de mouvements qui venaient d'Amal, des scissions islamiques, qui avaient été, où la Syrie, d'ailleurs, était plus ou moins derrière. Hein, toutes les scissions.
Il ne faut jamais vous challenger, cher François. Voilà. Exactement.
C'était la Syrie qui était derrière. Voilà. Et ensuite, les Iraniens se sont greffés dessus. Voilà.
Mais aujourd'hui, pour la première fois, d'après les informations qu'on a et qui proviennent du local, sans citer, c'est que 50% de Hezbollah n'est plus libanais. Armée, je parle.
Oui, l'Iran a repris totalement.
Il y a des Pakistanais, il y a des Afghans.
Des Pakistanais chiites.
Pardon, excusez-moi, des Afghans et des Irakiens qui sont déjà sur le sol libanais et qui sont prêts.
Il y a même
donc
un Hezbollah en Irak, hein, il faut le rappeler.
Ah oui, oui, il y a un Hezbollah irakien.
Hezbollah, c'est un nom générique, un parti de Dieu, qui n'est pas propre au Liban, qui a été donné par l'Iran. Et il y a une organisation Hezbollah, d'ailleurs, le militaire français qui a été tué en Irak l'a été vraisemblablement par une organisation qui s'appelle un Hezbollah irakien. Hein, voilà.
Donc, je pense personnellement que Netanyahu est dans une position un peu critique aujourd'hui. Instantané, encore une fois, on se parle, mais il attend dans les jours à voir comment ça va. Trump l'a engueulé, il faut appeler chat un chat, ou la façon, même sur son réseau, il l'a insulté, ou il lui a dit de gros mots, n'importe quoi, mais il lui dit ok, vas-y, on verra dans les jours qui suivent, ou dans les semaines qui suivent, comment ça va se dérouler. Sachant que Netanyahu était très clair, et c'est là aussi où ce n'est pas clair, qu'il voulait disséquer ou détacher le Liban de tout accord qui se ferait avec les Iraniens. Donc là, les Iraniens ont gagné, donc ils ont pu ajouter le Liban. Ils ont fait un dernier essai, les Israéliens, hier, qui n'a pas marché, il s'est fait engueuler encore une fois. Maintenant, on revient à ce qui s'est passé au Liban depuis ce matin. Les gens
rentrer à la maison.
Ils veulent rentrer à la maison. À peine ils arrivent dans certains villages, ils retrouvent des chars israéliens et des soldats israéliens. Allez, je retourne, je reviens, donc je ne peux pas rentrer dans mon village. Et de toute façon, ce qui a été fait, cet accord, et je pense que Trump le sait, ne peut que laisser les Israéliens, encore une fois, au Liban. Le président de la République, le matin, a annoncé qu'il espère une fin de guerre. Attention, hein, je pèse mes mots pour qu'il n'y ait peur des auditeurs. Après, tout le monde est pour la paix. Tout le monde est pour un accord, que tout le monde soit content, pour qu'il n'y ait pas demain des gens qui nous disent...
Tout le monde veut se débarrasser du Hezbollah, voilà, surtout.
Ouais. Exactement, voilà. Tout ce que vous voulez, mais je, ouais. Voilà, mais pour qu'on ne dise pas que si, regardez, on meurt, regardez nos maisons. Non, je ne parle, on parle politique, sincèrement, on ne parle pas humain. Sur le côté humanitaire, c'est catastrophique ce qui se passe au Liban. C'est fou, c'est rageux, on ne peut pas décrire ce qui se passe par rapport aux gens, et surtout à ces déplacés. Et les villages chrétiens, principalement aussi, qui sont dans cette zone et qui subissent, qui sont le punching ball de tout ce qui se passe. Mais bon, pour revenir, si vous voulez, voilà, c'est un peu lourd. Et ça va encore une fois prolonger beaucoup plus la présence des Israéliens sur le territoire libanais que de la raccourcir. Donc, ils sont déjà rentrés, ils sont 10 kilomètres, ils ont pris 10 kilomètres de fond. À voir. Qui va déraper et comment ça va déraper dans les jours et dans les semaines qui suivent. Maintenant, est-ce que les Israéliens, pour répondre à votre question finale, à votre question globale, vont changer de politique? La réponse est non. Les Israéliens sont connus pour avoir une politique aussi comme les Iraniens, là, excusez-moi, mais à long terme, ils voient toujours à long terme, ils ne voient pas à court terme. Leur but est à long terme et l'OTAN n'a pas trop de, excusez-moi, valeur ou de... Notre but, c'est d'arriver là.
Alors, une question enfin pour terminer, je vous la pose en vous après. Est-ce qu'on peut envisager un désarmement du Hezbollah? Par qui et comment? On imagine toutes les solutions.
Je n'ai aucune idée là-dessus. Désarmer une telle organisation qui a une puissance non seulement militaire, puisqu'on vient de le citer, mais également administrative, même sociale, puisque le Hezbollah aussi dirige des organismes dont la population profite, hein, faut pas se faire d'illusions. Donc un État dans l'État comme celui-ci, ça peut pas se faire. Alors, bien entendu que c'est l'objectif, c'est de le désarmer ou au moins les apprivoiser, mais je pense que ça va demander peut-être une ou deux générations.
Alors, je me tourne vers le spécialiste stratégique, hein, Najib Fayyad. Ah. Comment, dans l'absolu, imaginer un désarmement du Hezbollah? Puisque on sait très bien qu'on ne va pas tourner autour du pot, l'armée libanaise, quand elle ne veut pas le faire, elle ne peut pas le faire, et vice-versa, hein, sachons-le. On sait que notamment le commandant en chef de l'armée, Rodolphe Heikal, a dit qu'il ne pouvait pas le faire pour deux raisons, c'est qu'il craignait un bain de sang et ensuite une dislocation de l'armée. Moi, j'en ajoute une troisième, mais c'est sous ma responsabilité, c'est que Rodolphe Heikal est commandant en chef de l'armée et qu'il pense que la situation se rééquilibrant et sauvant notamment la mise du Hezbollah, fera du Hezbollah quelqu'un d'incontournable. D'ici là, quelques années, dans trois ans, au moment où le mandat de Joseph Aoun sera renouvelable, eh bien, Joseph Heikal ne serait que le cinquième commandant-chef de l'armée de suite arrivé au pouvoir avec l'assentiment du Hezbollah. Ça, c'est une position personnelle. Voilà.
Okay, je vais répondre alors, sur plusieurs étapes ou plusieurs niveaux, si vous voulez. Est-ce qu'on peut désarmer le Hezbollah? La réponse est oui. Attendez, je n'ai pas encore précisé ni le temps, ni le timing, ni rien, mais la réponse est oui. Le deuxième point qui est très important, est-ce qu'on peut désarmer l'organisation politique, les infrastructures du Hezbollah? Ça, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là où il y a tout le désaccord entre la politique française et la politique israélienne et la politique américaine.
C'est-à-dire notamment les écoles, les hôpitaux, les centres d'aide sociaux.
Ils ont aujourd'hui des députés, ils ont des ministres à l'intérieur du gouvernement, même quand on a vu... depuis maintenant trois mois, quand ils ont décidé d'aller discuter avec donc les Israéliens aux États-Unis, les ministres du Hezbollah se sont levés, sont partis, etc. Donc il y a encore une fois, le Hezbollah n'est pas seulement une structure militaire. Les Français, c'est encore une fois, je répète, c'est là où il y a un désaccord total entre l'approche française et l'approche américaine ou l'approche israélienne. Pour Israël, le Hezbollah est une seule unité. Et je mets tout le monde dans le même, excusez-moi, dans le même panier. C'est tous des terroristes, c'est tous, etc. Il faut les éliminer, sachant qu'on ne peut pas éliminer Si on revient à la position française, on ne peut pas éliminer comme ça tout le monde. C'est une organisation unitaire, mais en même temps une organisation pour faire facile aux gens, une politique et administrative. Et ça, on ne peut pas éliminer comme ça parce que, avant, depuis un an, cette partie Hezbollah représentait pratiquement 80% des chiites, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. D'où je vous dis, il y a une possibilité quelque part aujourd'hui, mais il faut la travailler. Ce n'est pas comme ça qu'on va aller demander à l'armée ou demander à n'importe un d'aller. Donc, il y avait peut-être une ouverture depuis quelques mois, au début de la guerre, avec une aide un peu plus quand le Libanais a pensé à partir du moment où le Charles de Gaulle a bougé, il partait un peu au Moyen-Orient, qui allait un peu les aider avec les soldats de la FINUL qui sont là-bas. À partir du moment où on a dit ben, la FINUL est partie jusqu'à décembre, et puis ok, on connaît les détails, donc il n'y a rien pour le moment qui puisse pousser n'importe qui à venir désarmer, comme tout le monde le souhaite, la partie militaire de Hezbollah. Surtout après ce que je vous ai dit, que 50% aujourd'hui des gens ne sont pas des gens de Hezbollah qui sont les militaires.
Oui, d'ailleurs, les commandants éliminés en Israël, il y a eu beaucoup d'Iraniens, commandants des passes d'Aran qui ont été éliminés à Beyrouth.
Hein. À Beyrouth, mais c'est eux qui commandent aujourd'hui la partie militaire, c'est les passes d'Aran qui gouverne ou qui manage ou qui gère la partie militaire de Hezbollah. Donc, il n'y a pas de doute sur cette partie-là. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué. Avec le temps, maintenant, c'est vrai qu'il faut des armes, il faut de la logistique, il faut tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'ils vont être fatigués. Encore une fois, il y a quelque chose qui peut aider. C'est pour ça que je vous dis, la tête principale est tombée. Il y a plusieurs groupes autour qui sont en train de s'organiser. Tous les groupes ne sont pas sur la même idée ou sur le même fonctionnement. Est-ce que ceci peut, avec le temps, aider à, que ce soit l'armée ou... La solution doit venir des Libanais. On peut s'appuyer. C'est vrai qu'on a besoin de l'armement. C'est vrai qu'on a besoin de logistique. Excusez-moi, le nerf de la guerre, c'est la logistique. Si on n'a pas ça, on ne va pas à la guerre. On revient à l'histoire des Israéliens et des Américains. Mais s'ils n'ont pas ça et s'ils n'ont rien dans le contexte actuel, personne ne peut le faire. Mais si demain, petit à petit, le Hezbollah commence à changer, en se disant, ben, je veux être plutôt un parti politique. Est-ce qu'on revient à ce que vous avez dit avant, Nabi Abayri, il chercherait quoi? Comment réorganiser, on va dire, le département politique au sein des chiites? Le Hezbollah peut arriver à un certain moment à ben, mon existence militaire, elle sert à quoi? Elle y est pourquoi? Et les Israéliens ne vont pas sortir cette fois du Liban, excusez-moi, pour faire plaisir à tel ou tel. Ça, c'est sûr. Moi, l'accord de ce matin, ou la lettre d'intention de ce matin, ne justifie pas, au contraire, elle appuie encore plus la position des Israéliens au Liban que leur sortie du Liban.
Bien sûr, elle ne leur donne aucune garantie, en tout cas. On sait que les Israéliens sont des gens qui sont rétifs à tous les traités. Ben, on sait très bien qu'ils les respectent quand ça les arrange. Si, ils ont respecté le traité avec l'Égypte. Ils ont respecté le traité avec la Jordanie. Quand ils signent avec des États, ils respectent les traités.
Par contre, on fait un traité, on fait un vrai traité, un vrai accord. Après, on rentre dans une guerre.
Voilà. Après, l'accord de Oslo avec les Palestiniens, on sait que d'un côté comme de l'autre, il n'a pas été respecté, de toute façon. Mais quand il y a un accord avec un État, les Israéliens veulent signer avec. C'est avec un État. S'il y avait un accord avec le Liban, il est certain que les Israéliens le respecteraient à partir du moment où le Liban pourrait le faire respecter. Ça, c'est la principale, c'est la quadrature du cercle.
Est-ce que le Liban peut garantir aujourd'hui la sécurité d'Israël avec ce qui se passe? La réponse est non.
Mais il y a quand même un changement dans les esprits. Moi, quand même, j'ai enseigné 10 ans à l'UEJ et je regardais notamment les cahiers des enfants du temps de Syrie, y compris dans les écoles chrétiennes, y compris quand même des écoles style Jam, etc. Au lieu d'enseignement maronite, eh bien, les enfants, dans les cahiers d'instruction civique, il y avait décrit et dessine des enfants qui luttent contre l'enfant israélien, etc. C'était dans les programmes officiels. Bon, maintenant, il y a quand même un changement d'état d'esprit. L'ennemi israélien, on l'entend plus également, ni sur les ondes, ni dans les esprits.
C'est une longue histoire. On ne peut pas la juger basée sur, excusez-moi, quelques mois. C'est quelque chose qui existe maintenant depuis des siècles. Des générations et tout. Et en plus, à chaque fois, c'est pour ça que je vous dis, ok, je sais que chacun exécute les ordres et comment dire, ce qui se passe, c'est de la légitime. Ils font ce qu'ils doivent faire, mais indirectement aussi, vous avez en face de vous des gens qui meurent, des maisons qui tombent, des gens qui n'ont rien à voir, des dommages collatéraux. Et ça, je le comprends très bien. Mais malheureusement, et ce n'est pas du tout, c'est avec une grande tristesse, ceci n'amène pas la solution finale. Et la solution finale, c'est d'arriver à faire un accord pour terminer de cette histoire et que chacun vive en paix. Le Libanais aujourd'hui est fatigué, vous savez. Depuis combien d'années ça dure? Depuis 1975-76, même avant
51 ans. Non, mais voilà. Sans compter l'accord du CAIR de 69 a été pratiquement le début du déclenchement des sociétés. Il y a eu les 1973, les affrontements entre l'armée et les Palestiniens qui ont été stoppés par le gouvernement sunnite, etc. Okay.
On lui a détruit tout, on a reconstruit. On l'a volé maintenant, les banques, on a détruit tout le système financier et bancaire. On l'a volé. Et la guerre a recommencé en 88, en 92. Et elle a recommencé là maintenant. Donc, et destruction de nouveau. Mettez-vous à la place d'une population qui est extrêmement fatiguée et qui n'en peut plus. Et c'est là où un peu aussi, vous demandez même à une partie des chiites, ils sont fatigués aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont profité du système, on ne peut pas dire. Ils ont profité du système.
Mais le Hezbollah, la manne du Hezbollah a commencé à se tarir un peu quand même. Il y a quand même moins d'argent qui est donné au Hezbollah. Je pense que quand Israël détruit, et Israël détruit très bien, en sachant que le Hezbollah ne pourra pas reconstruire,
c'est
en effet.
Je me suis permis avant de dire, vous n'avez plus la tête. Si la tête, comme elle était à l'organisation, n'est plus là, il y a des groupes. Et puis vous n'avez plus l'argent, ni les finances, le nerf de la guerre, c'est la logistique.
L'Iran
vous n'avez plus
la logistique. Veut de l'argent également pour que le Hezbollah puisse reconstruire les maisons et avoir des partisans. Si le Hezbollah ne construit plus les maisons des chiites, en effet, le soutien des chiites va commencer à se tarir.
Si vous n'avez plus de raison de faire la guerre, vous ne la faites plus. Ouais, exactement.
Pascal Mas, une dernière remarque peut-être sur la question du Liban.
Vous écoutez, moi je ne peux que garder le silence.
Non, vous savez, modeste. Alors, on va passer pour télé. Il nous reste une dizaine de minutes à peu près, hein, je pense. On va passer un petit peu en Europe. On va parler notamment de l'Irlande du Nord. Alors, l'Irlande du Nord, vous savez, c'était ce pays, cette partie de l'Irlande qui n'avait pas été indépendante en 1921 et qui a lieu d'affrontement. Mais la technique me fait signe et il est l'heure de passer un bobino. Merci.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Oui, n'oubliez pas, chers amis auditeurs, que Radio Courtoisie est une radio libre, indépendante. Elle ne vit que par vos souscriptions. Il n'y a pas de petits dons, quelques euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, plus si vous pouvez. Hein, aide Radio Courtoisie à être plus performante. Et moi, j'en aperçois en tout cas fréquentant depuis plusieurs années Radio Courtoisie, à chaque fois, notamment, hein, il faut saluer le travail de Pierre-Alexandre Bouclet et de son équipe, de ses équipes. En tout cas, hein, Radio Courtoisie s'améliore sur le fond, sur la forme et sur la performance. Mais tout ça, c'est grâce à vous et seulement grâce à vous. Alors, justement, on va parler de la question.
La dernière chose que j'aimerais vous dire pour répondre finalement à votre question. Dans toute cette partie du monde, et spécialement au Liban, un bon leader, un bon chef, avec un monsieur comme Bachir Gemayel qui croit aux 10 452 km², il pourra le faire, cher monsieur.
C'est un homme qui n'a jamais été remplacé, de toute façon, malheureusement. Il faut le dire, il y a une grande ombre qui pèse sur le Liban en général et sur les chrétiens en particulier.
N'ayant pas peur, parlant libanais, Liban, pas religion, ni Iran, ni personne, en parlant libanais.
Alors j'ai fait ma thèse sur le Liban, dirigée par Charles Orbib, et Charles Orbib, dans son livre qui s'appelle « Terre trop promise », a qualifié Béchir Gemayel de Bonaparte du Proche-Orient. Malheureusement, c'est un Bonaparte qui n'a pas pu aller à terme, etc.
On passe alors.
Voilà. Alors, on passe sur l'Irlande du Nord. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a eu un crime abominable, l'assassinat d'Henri Novak par un sikh, hein, qui a été poignardé. Mais ce qui a rendu encore plus abominable ce crime, c'est le fait que ce jeune, tout en baignant dans son sang, a été menotté tout simplement parce que, par la police sur les dires du sikh, qui avait dit qu'il y avait été une injure raciste, et ce jeune a été tué, en fait. Il aurait peut-être pu être sauvé s'il n'avait pas été menotté. Il s'est vidé de son sang, justement. Pourquoi? Parce que la police, aujourd'hui, en Grande-Bretagne, elle est plus soucieuse d'une prétendue injure raciste que d'un assassinat. C'est dire l'antiracisme constitue pour moi une espèce de, quand même, disons-le, une espèce de sida mental, parce qu'il est aussi condamnable que le racisme, parce qu'il fonctionne, en quelque sorte, sur les mêmes préjugés, le même déséquilibre, sur une même injustice et sur une même partialité, d'ailleurs. Et on a vu, en quelque sorte, comment la police était gangrenée en Grande-Bretagne. Et cet événement a eu des répercussions, parce que, bien sûr, il y a des manifestations en Grande-Bretagne. Et puis, il y a eu ensuite une agression particulièrement abjecte d'un jeune homme handicapé, hein, qui a perdu la vue, qui est resté plusieurs jours entre la vie et la mort, cette fois-ci par un migrant, alors je crois soudanais. Hein, l'Irlande du Nord, je rappelle, accueille également des migrants, parce que on va parler du pacte asile et immigration qui viennent souvent d'Irlande, parce qu'il n'y a pas de frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et là, véritablement, il y a eu quand même des émeutes, hein, qui ont été lancées, il faut le noter pour la première fois, entre catholiques et protestants, qui ont quand même connu depuis plusieurs siècles une guerre civile particulièrement atroce, ouais. qui là sont main dans la main. Alors, est-ce que l'Irlande du Nord est en quelque sorte au début d'une prise de conscience des peuples européens, et paradoxalement, est-ce que la France, elle, mentalement, n'est pas à la traîne?
Je réponds.
Oui, oui.
Bon, premièrement, l'Irlande du Nord, enfin l'Ulster, c'est un territoire complètement différent de tout le reste de l'Europe. Parce que avant le 1921, les Anglais considéraient l'Irlande comme une colonie, c'est-à-dire comme l'Inde, comme le Kenya ou quoi que ce soit. Donc, il y a eu ça a été polarisé par la rupture religieuse entre les catholiques et les protestants, mais c'était déjà à l'époque une question de sociale, c'est-à-dire que les protestants d'Irlande du Nord avaient l'accès à tous les postes rentables, tu sais, les catholiques, eux, n'avaient que les miettes. Bon, ça a duré jusque dans les années 80. Tout à l'heure, on a parlé des partis avec la branche militaire, la branche politique. Donc, en Irlande, c'est la même chose. L'IRA,
c'est le Sinn Féin qui est actuellement au pouvoir.
C'est ça, exactement.
Des deux côtés, hein, il faut le rappeler. Pas en République du... Ils ont une présidente proche en République d'Irlande, mais ils sont au pouvoir pour la première fois en Irlande du Nord.
La première ministre nord-irlandaise est Sinn Féin.
Et qui est une immigrationniste convaincue, hein, il faut quand même le rappeler. Hein.
Voilà.
Le Sinn Féin, qu'il faut rappeler quand même, siège au Parlement européen dans le groupe Left avec la France insoumise. Hein.
Ouais.
Rappelons-le quand même.
Voilà, alors donc, effectivement, il y a des proximités qui sont assez regrettables et très surprenantes. Ce qui se passe en Irlande du Nord, parce que l'Irlande du Nord subit une crise économique aussi brutale que le nord de l'Angleterre ou le centre de l'Angleterre, où là, il y a une crise économique mais fondamentale. Ils ne sont pas au niveau du Liban, mais s'ils continuent comme ça, dans 4 ans, ils y sont. Ah, donc, l'Irlande du Nord est maintenant devenue un pays très pauvre. Très, très pauvre. Enfin, l'Ulster. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens de l'Ulster qui quittent l'Ulster pour aller en République d'Irlande. Comme vous l'avez dit, François, il n'y a pas de frontière.
Il n'y a jamais eu de frontière, d'ailleurs, entre les deux pays.
Hein. Oui, non, même mais avec le Brexit,
La question s'est posée, justement, de la frontière, et finalement, ils se sont accordés, en effet, sur les Landes, qu'il n'y aurait pas de frontière.
C'était pas le cas sur
les Landes. Et le type qui a massacré ce pauvre garçon, l'espèce de Soudanais, là, je ne sais quoi, il est venu de France, n'est-ce pas ? République d'Irlande, et ensuite, il est passé à pied tranquillement jusqu'à Belfast. Hein, donc, ce qui en dit long aussi.
En vertu du pacte sur l'asile et l'immigration dont nous allons parler par la suite.
Voilà. Donc, la population nord-irlandaise n'a pas pu supporter ça parce qu'en plus, comme je vous le dis, il y a une crise économique extrêmement brutale. Donc, les gens sont à cran. Et on leur dit, vous êtes que des profiteurs, etc. C'est-à-dire le wokisme qui fait autant de ravages qu'ici en France. C'est, vous êtes des sales racistes, etc. C'est un pauvre type et tout ça. Bien sûr, il est à califourchon sur ce pauvre homme en train de le poignarder au visage. Il lui a crevé un œil. Mais c'était lui le raciste. Donc, vous l'avez dit avec le cas précédent. Mais bon, qu'est-ce qui s'est-il passé? Les Anglais ont choisi un système, c'était le communautarisme, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, chacun dans son coin quand même. Hein. Donc, en nous moquant, nous, les Français, avec notre modèle assimilationniste. Le résultat, c'est qu'aucun des deux systèmes ne fonctionne. Du côté britannique, c'est la crispation absolue et brutale, et ici, c'est plus latent. Mais ça commence à bien faire. Ce qui s'est passé le mois dernier avec au stade de Parc des Princes, etc. La population française en a marre. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, il suffit de voir. Ça n'a rien à voir directement, mais l'exaspération, elle est telle que n'importe quel fait, alors fût-il encore plus atroce, le meurtre de la petite.
Léana,
ça a ému tout le monde. Il n'y a pas de région, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle, il n'y a pas de classe sociale, rien du tout. C'est tout le monde qui a été écœuré par ce truc et surtout par le fonctionnement de la justice qui est absolument
le mépris d'Emmanuel Macron. Hein,
oui, et pas que. Là, il y a une autre maman qui a témoigné qu'elle téléphonait pour savoir où on était à l'enquête et les gendarmes qui disaient si vous continuez à nous harceler, on va porter plainte contre vous. Non, mais on est où là? On est dans quel dans un pays de fous? On est dans un pays de fous.
Moi, je vais vous dire quelque chose. Qu'on le veuille ou pas, mais ce sera peut-être votre deuxième question. C'est toute la problématique aujourd'hui de l'Europe. Mais si on parle de l'Irlande du Nord,
oui.
C'est un problème très très ancien,
oui.
Dont la solution est encore pas trop mûre. Ça veut dire, on a
ils ont signé un accord. 1997, hein, l'accord du Vendredi Saint. Hein.
Merci. Donc, il est encore jeune cet accord. Donc, et en plus, si je comprends bien, c'est la saison de ce qu'on appelle la saison des marches actuellement. Donc,
notamment les orangistes hein, qui font leur marche annuelle en plein quartier catholique.
Il y en a, d'après ce que j'ai compris.
Depuis l'accord du Vendredi Saint, on avait demandé de réduire justement.
Donc, le problème n'est pas encore résolu à 100%. Dans l'esprit des gens, il y a toujours cette haine ou cette vouloir se battre, protestants, catholiques, etc. Et il ne faut pas oublier quelque chose de très important en Irlande, il y a aussi ce qu'on appelle ce problème social et facial.
Exactement.
Donc, malheureusement, personne n'est content quand ça se passe comme ça. Hein, et ce qui s'est passé est désastreux pour le pays, pour tout le monde. Humanitairement, je suis tout à fait d'accord. Mais on parle d'un pays où une longue histoire, avec une solution qui est toute jeune, et on vient titiller des gens qui n'ont pas encore oublié. Vous savez, jusqu'à maintenant, en France, on parle de la Deuxième Guerre mondiale et des gens. Donc là, c'est encore plus jeune, plus court en même temps.
Sauf que les ennemis héréditaires sont unis.
Ah oui,
c'est-à-dire
oui.
Catholiques comme protestants. Est-ce qu'au Liban, justement, les chrétiens et les musulmans ne pourraient pas s'unir cette fois-ci contre l'envahisseur? Le problème qu'il y a au Liban, c'est qu'il y a eu des envahisseurs étrangers. Un envahisseur étranger, les Libanais ne sont pas forcément unis contre l'envahisseur étranger cette fois-ci.
Ben, je l'ai dit avant, si vous avez un homme fort qui peut réunir le peuple libanais sous le drapeau libanais avec ses 10 452 km², avec une armée aujourd'hui forte puissance, parce que le Libanais est un guerrier, quand on voit comment il a résisté pendant toutes ces années, c'est un guerrier. Il s'est battu depuis des millénaires, il est toujours là. Donc s'ils s'unissent, attendez, quand Bachir Gemayel a uni les Libanais, ils ont fait peur.
C'est certain. Alors justement, pour revenir à ce migrant assassin, en Irlande, il est venu parce qu'il y a le pacte sur la maîtrise de l'immigration, hein, notamment, d'ailleurs c'est symptomatique, hein, c'est le règlement de Dublin, hein, le pacte sur l'asile immigration est une continuation, en quelque sorte, une cristallisation des règlements de Dublin. Je rappelle que le pacte sur l'asile immigration oblige notamment tous les pays à accueillir des migrants, c'est la répartition de migrants. Hein. Monsieur Magyar, aujourd'hui en Hongrie, eh bien, qui a remplacé Monsieur Orban, il va falloir qu'il explique un jour, quand les Soudanais et les Afghans vont débarquer devant le beau palais de Budapest, il va falloir qu'il explique un petit peu que c'est pas tout à fait Orban qui l'a trahi. Et rappelons également que chaque pays qui refuse un migrant paye 20 000 euros par migrant, notamment, qui n'est pas admis. Alors le pacte sur l'asile et l'immigration, il recueille, alors c'est assez étonnant, une opposition de la France insoumise qui, encore une fois, a tout compris à l'envers, n'a pas compris que c'était un pacte immigrationniste, sous prétexte en effet qu'il y a une partie, notamment une directive retour, qui ne découle pas du pacte asile et migration qui est voté actuellement au Parlement européen, qui prévoit notamment de renvoyer dans des pays dits sûrs, également notamment dans des pays tiers. Oui, ça ne plaît pas à la France insoumise, qui veut qu'en effet on garde... je rappelle l'improbable député Antoine Léaumont, de façon incroyable, a déclaré que le problème qu'il y avait des assassins, c'était parce qu'on ne les gardait pas, on ne les assimilait pas en nous, et que c'était pour ça qu'ils étaient assassins, qu'il ne fallait pas les renvoyer. Donc je préfère passer là-dessus. Mais finalement, c'est le pacte sur l'asile et l'immigration hein, qui est un pacte problématique. Je tenais la réponse rapidement. Alors, 30 secondes, Najib Fayad, sur le pacte sur l'asile. Après, je vais finir par le G7.
Moi, je dirais que c'est toute la problématique aujourd'hui de l'Union européenne, des frontières européennes. De toute façon, qu'est-ce qu'il parle, cet accord? De la gestion des flux migratoires et la solidarité envers les États frontaliers. Déjà, à la base, on n'est pas d'accord sur le principe. Aujourd'hui, quand on voit l'Italie, excusez-moi, même la Hollande, l'Allemagne, ça veut dire qu'il y a une jurisprudence quelque part, et c'est pour ça que j'ai dit, avant même de commencer, je vous ai dit, c'est le sujet... très pointu. Aujourd'hui, les conseils le Conseil d'État, le Conseil... c'est pas clair, je ne sais pas comment ça va. Encore une fois, on fait des règles, mais on ne sait pas comment les exécuter ou les mettre en route.
Voilà. Alors justement, c'est vrai, le G7 se réunit aujourd'hui à Évian, hein, dans le beau cadre de l'Hôtel Royal. Alors le G7 se réunit à Évian, Donald Trump est venu, est présent, c'est un forum économique. Mais Pascal Mas, vous qui défendez les BRICS, hein, il faut quand même rappeler, est-ce que le G7 aujourd'hui c'est la réalité de la gouvernance économique mondiale? On peut en douter, puisque depuis 2023-2024, je rappelle que le PIB des BRICS, je ne parle pas des BRICS plus, hein, des 5 pays des BRICS, a dépassé le G7. Est-ce qu'aujourd'hui, la réalité, le G7 est une réalité économique? Est-ce que le BRICS en est une? Et moi, ce que je pense, est-ce que la réalité économique, ce n'est pas G7 plus BRICS plus égale G20?
Alors, bon, il y a plusieurs questions dans votre remarque. Déjà, le G7, quand c'était créé par Giscard, c'était les pays les plus industrialisés. Vous voyez où on en est en matière d'industrialisation, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie, un peu moins. Donc, ça fait déjà rigoler. Bon, ensuite, quels sont les points communs entre le Japon, qui a toutes les raisons de se rapprocher de toutes les puissances émergentes de l'Asie-Pacifique, et la France? C'est qui est ruiné, qui n'a pas de budget, qui est... je ne sais pas du tout à quoi ça sert.
Voilà, Najib Fayad, la réalité c'est le G7, les BRICS ou le G20, vous qui êtes un homme qui investissait dans les affaires.
Depuis deux jours, il y a eu un événement à New York, donc la mise sur le marché de la bourse américaine de la société de qui?
Vous allez me dire, d'Elon Musk, oui, oui. Ouais.
Ok, c'est à combien ça a été évalué? C'était quoi le...
Je crois que c'est... je crois qu'on est à plusieurs dizaines de milliards de dollars à peu près. Ou
qui fait monter 100... les fusées aujourd'hui?
Ouais, je crois qu'on est autour de 200, 300, okay. Si ce n'est pas 500 milliards de dollars.
Qui contrôle aujourd'hui les satellites, ouais, les fusées et tout? Vous avez votre réponse.
Voilà. Donc, c'est ni le G7, ni les BRICS, ni le G20. Donc, ce sont des
acteurs...
Aujourd'hui,
quand ils vont dans les avions, le G7 ou le G20, ils ont qui avec eux dans l'avion? Toutes les sociétés,
les hommes d'affaires
qui arrivent derrière pour signer les deals. Mmh. Okay, sans les citer, parce que vous les connaissez
bien
tous,
sûr. Que ce soit... Bah écoutez, cher Pascal Mas, et surtout cher Najib Fayad, merci beaucoup pour cette première venue. C'est avec grand plaisir. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Hein, ce sera la prochaine. Chers amis auditeurs, merci à tous. Merci de votre fidélité. Et nous l'espérons, rendez-vous dans 4 semaines.
Venez d'entendre le Libre Journal du lundi soir, dirigé par François Costantini, diffusé en direct sur Radio Courtoisie le 15 juin 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.